sur le pont des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peinture, photographie, cinéma, sculpture, musique. Dans l'actualité des arts, l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts. Sur le pont des arts vous propose de découvrir l'actualité des académiciens pour le mois de juin. Nous signalerons également les dates importantes à connaître pour les prix et concours de l'Académie des Beaux-Arts, les dates de clôture de certains concours tout particulièrement, et nous dévoilerons également les noms des lauréats des prix Del Duca. Enfin, sur le pont des arts, braquera son projecteur sur le rapport entre la science et les arts à travers trois expositions et en particulier à travers l'exposition d'une jeune artiste qui crée des œuvres en béton. Mais commençons d'abord par Pierre Cardin, venu nous présenter son projet de Palais Lumière à Venise, un projet pharaonique. Comment est né ce projet, Pierre Cardin, le projet du Palais Lumière ?
Eh bien, j'ai toujours aimé l'architecture en réalité. J'ai voyagé dans ma vie dans tous les sites archéologiques, que ce soit au Cambodge, que ce soit partout en Chichen Itza, que en Pré-Mexique, que ce soit bien sûr aux pyramides, que ce soit en Égypte, dans le monde entier. Mon obsession à 16 ans, 18 ans, c'est d'être un aventurier et surtout de m'intéresser à tout ce qui est architecture, construction du passé, culture, civilisation et musée. Donc j'étais très impressionné par le passé, parce qu'il faut avoir de la culture pour quand même créer demain. Si c'est pour imiter, on n'est pas un créateur, on est un constructeur, mais on n'est pas imité, on n'a pas de mérite. Moi, ce qu'il voulait, c'était d'avoir une certaine culture intérieure et profonde pour pouvoir un jour, si c'était dans mes possibilités de créateur, de réaliser certaines choses qui n'existaient pas. Et par le Palais Bulle, qui a été une réussite, comme vous savez, auquel j'ai participé, qui est dans le Midi d'ailleurs.
Et qu'on peut visiter.
Qui est assez étonnant. Ou alors par ce nouveau projet qui est le Palais Lumière, qui était cette espèce de fleur qui montait dans le ciel, qui était une sculpture habitable. J'ai travaillé là-dessus en étant informé qu'il n'y en avait pas, ça n'existait pas ailleurs.
Donc là, pour la première fois, vous créez une œuvre architecturale
de A à Z. Terrassement
à
le voir terminé à l'eau laser.
Voilà, vous allez aller jusqu'à la réalisation, jusqu'au
Exactement.
Bout. Dans ce bâtiment, ce n'est pas un bâtiment comme les autres.
Toutes les maquettes sont déjà prêtes et tout le service autour de moi de réalisation est prêt. Technologiquement, car ça demande 4 ans de travail, vous comprenez-vous. Ce n'est pas uniquement une maquette visible, c'est toute la technologie de A à Z, de fonctionnement, des choses qui ne se voient pas, qui sont importantes et ô combien difficiles, et thermiques, etc., qui sont déjà prêtes à commencer en mois de septembre.
C'est vous qui avez initié ce projet, c'est vous qui l'avez dessiné.
C'est mon studio qui l'a fait avec moi, bien sûr, sous mon ordre. J'ai mon neveu qui est mathématicien et architecte en même temps et ingénieur. J'ai Daniel Yu qui est un de mes amis également, qui fait partie du studio. On l'a conçu à peu de personnes, mais sous mon impulsion, c'est moi qui ai eu l'idée.
Est-ce que vous avez des esquisses de ce premier projet quand vous l'avez imaginé?
Oui, je pourrais vous en donner, bien sûr.
Vous aviez dessiné ce
projet.
Oui,
bien sûr, les premières.
Ensuite, on vous a accompagné pour évidemment mettre en œuvre.
D'abord, il fallait d'abord savoir. Le projet a été fait sans savoir qu'il allait se réaliser, parce que c'était quand même une chose. Quand j'ai présenté à l'Académie des Beaux-Arts, par exemple, c'était culotté, parce qu'on ne présente pas tellement des choses à laquelle ils ont été très, très surpris de la créativité, puisqu'il y a des architectes, vous savez. Donc ça m'a beaucoup encouragé, je dois dire. L'Académie m'a beaucoup encouragé. Et puis les présentations que j'ai faites à d'autres architectes dans le monde entier ont trouvé ça très intéressant. Et j'ai eu des demandes de construction. Mais je voulais le faire à Venise, voilà. C'était
voilà,
mon point de vue.
Vous vouliez le faire dans votre berceau familial.
L'origine de ma famille.
De votre famille, de votre culture. Vous vouliez apporter aussi un plus à la région, en n'édifiant pas seulement un bâtiment, on va dire, passif. C'est un bâtiment très actif dans tous les sens du terme, dans ses matériaux, mais aussi dans ses fonctions, dans ses activités, dans ce qu'il proposera.
Et social.
Tout ça, c'est un complexe.
C'est un complexe et un comportement auquel je tenais beaucoup. Parce que j'aurais fait une chose qui n'était pas en correspondance avec le drame de la vie d'aujourd'hui. Sans doute que les présidents de la région, ou le maire, ou le président de la République que j'ai rencontré aussi, n'aurait dit non, vous comprenez. Donc il y avait toutes les circonstances que moi je voulais réaliser qui allaient absolument dans la direction du gouvernement.
Alors ça c'est pour le côté de l'activité, le côté économique, parce que ça va donner un véritable coup de fouet à toute la région,
voire au-delà. Oui, il va falloir commander 2000 lits, vous rendez compte, 2000 salles de bain. Ouais, c'est une région qui va travailler pendant 4 ans.
C'est un grand chantier.
Très grand chantier.
Très grand chantier.
Je pense les draps de lit, les couverts, les lampes, les, ne serait-ce que les prises de téléphone, les prises de lumière, les éclairages. Enfin, les tableaux, les lits, les tables,
mobilier.
Les chaises. Combien de chaises, combien de lits, combien de sièges pour les conférences. Ça, ça compte, c'est des milliers à la fois.
Bien sûr.
Combien de couverts. S'il y a 1400 appartements, plus l'hôtel, ça fait déjà 5000 petites cuillères à café, 5000 petites cuillères fourchettes, 5000 couverts.
On voit l'homme d'affaires derrière l'artiste.
Ah, ça passionne, ça passionne. Je ne suis pas seulement un homme d'idées, mais j'aime, et c'est ma formation de comptable, d'ailleurs à Vichy pendant la guerre, auprès du général Verdier, qui était délégué général de la Croix-Rouge française, pendant laquelle j'ai travaillé 2 ans près de lui. Ça m'a beaucoup formé d'apprendre la comptabilité, parce que j'ai le sens du chiffre et du nombre et des difficultés.
Dans ce Palais Lumière, Pierre Cardin, qu'est-ce qui est de votre œil d'artiste dans les
c'est
courbes
c'est l'origine du projet.
L'origine du projet, l'idée du projet et ses courbes esthétiques très
voyez-vous, c'est, tout est arrondi, c'est caressant, c'est pas du tout une chose, c'est comme une colonne vertébrale, regardez. C'est pas du carré qu'on aurait pu faire, des blocs carrés ou en penché. Il y a une colonne vertébrale, il y a des jardins, il y a des chutes d'eau, il y a des salles de conférences de 5000 personnes, 8000 personnes, il y a des cinémas. C'est un complexe total. On peut y vivre.
En quoi il est futuriste? Puisque ça, c'est une de vos grandes passions.
Parce qu'il est technologiquement moderne, dans toutes ses fonctions nécessaires, et même esthétiquement.
Esthétiquement et...
Une sculpture, j'aurais fait une sculpture à miniature comme ceci, comme j'aurais pu la faire à 1 mètre, comme à 500 mètres. Il n'a pas de limite.
Il est sans limite, c'est 240 mètres de haut.
240 mètres de haut.
3 tours qui s'évasent vers le ciel.
Trois tours, oui.
Qui sont comme un bouquet.
Bah écoutez, ça ressemble au dessin que je vous ai exprimé tout à l'heure. 3 fleurs qui tombent des différentes hauteurs. Si vous mettez par exemple 3 tulipes l'une à côté de l'autre, elles tombent un peu. Il y en a plus une qui est plus ou moins haute, une plus ou moins basse. Et en même temps, elles sont, quand on les envoie à l'offre, on les noue avec des rubans et ça fait des rubans à des étages différents qui font des énormes plateformes. C'est aussi simple que ça, la création.
Une idée simple, mais une idée belle, là.
Ah ben, une idée qui a été conçue à travers ensuite la réalité, de le réaliser, bien sûr. S'il avait fallu qu'un petit ruban de soie, j'en ai beaucoup dans la maison, en tant que couturier.
Ça ressemble un petit peu à une de vos sculptures et certains de vos meubles. On retrouve, je trouve,
votre... Ah, mais moi, c'est toujours le rond, vous savez.
Courbe, très évasé, très élancé.
Le palais bulle, c'est rond aussi. Moi, c'est l'infini, le rond. C'est avec le rond, il n'y a jamais de fin. En tout le carré, on a des coins. Mais le rond... Vous pouvez tourner autour de la Terre, vous ne savez pas si vous êtes à San Francisco ou à Tokyo ou à New York, on tourne,
un
mur.
À quel endroit du Palais Lumière vous vous imaginez?
Le Palais Lumière à Venise est situé à 800 mètres du pont qui va de Mestre à Venise, c'est-à-dire du pont qui conduit de la Terre italienne à Venise, qui est une île, comme vous le savez.
Et vous, dans ce palais, dans cet axe vertical, là, dans cette construction?
Mais moi, je vais avoir le dernier étage également, ça c'est évident. Je me garde le dernier étage parce qu'il y a la vue la plus extraordinaire, surtout Venise et sur la neige, sur les Alpes enneigées, sur Trieste, sur Padoue, on voit très très loin la mer à l'infini.
Donc c'est le campanile presque de Pierre Cardin.
C'est beaucoup plus haut que le campanile puisqu'il a le campanile à 100 mètres d'eau et là il en a 240.
Voilà. Bon, eh ben écoutez, merci Pierre Cardin d'avoir présenté ce Palais Lumière en si peu de temps, ce projet pharaonique qui va apporter beaucoup d'énergie et beaucoup de travail à toute
sociale,
une région.
C'est social en tout cas. Mais dans le social, pourquoi apporter la laideur ou le pratique seulement? On peut donner aux gens qui malheureusement n'ont pas les moyens la beauté dans un confort et dans une conception heureuse en même temps, parce qu'il va y avoir autour de ça des maisons champignons, on les voyait là, tout autour. C'est-à-dire les gens qui vont vivre là, les bateaux vont passer. C'est une zone vraiment qui va être écologique là en bas, avec des piscines dans le sol, ça va être formidable.
Vous l'avez appelé Palais Lumière, pourquoi?
Parce que je me rappelle, la lumière, c'est l'infini.
On va rester sur ce joli mot. Merci Pierre Cardin. Dans l'actualité des académiciens, signalons que l'architecte Jacques Rougerie assurera des conférences et des interventions dans le cadre de la présentation de Sea Orbiter qui fait le tour du monde. Ce vaisseau futuriste, mais tout à fait concret, qui doit naviguer sur les océans pour mieux comprendre les courants marins et mieux répondre aux grands défis climatiques à venir. Ainsi, Jacques Rougerie, du 12 mai au 22 août 2012, à l'exposition internationale de Yeosu en Corée, présentera Sea Orbiter, cet élément phare de son œuvre, qui deviendra justement l'emblème du pavillon français lors de l'exposition là-bas présentée et qui s'intitule « Pour des côtes et des océans vivants ». Jacques Rougerie sera également présent à la conférence des Nations Unies sur le développement durable à Rio, où il présentera encore le projet Sea Orbiter en session plénière pour la journée de l'océan le 20 et 22 juin 2012. Il sera également présent début juillet, le 10 juillet, devant les élèves de l'école navale de Poulmic à l'école militaire à Paris dans le 7e arrondissement pour présenter le projet Sea Orbiter. Claude Abeille présente une exposition en résine et polychrome à la Galerie Univers du Bronze dans le 8e arrondissement, 27 rue de Penthièvre. C'est du 6 juin au 6 juillet. Claude Abeille, adepte du bronze et du plâtre, mais surtout du bronze, explore cette fois un matériau pas très nouveau, mais un peu nouveau tout de même, la résine plastique. Il l'a choisi justement pour son identification extraordinaire avec le plâtre, intéressé par sa blancheur mate, sa finesse dans la lumière, car elle se révèle solide et capable de pérenniser toutes ses intentions. Ce matériau lui permet aussi de colorer ses sculptures, jusqu'alors habillées de lumière et de la patine sur le métal. Dans cette exposition d'œuvres récentes, lui qui joue habituellement sur la thématique du vêtement de l'enveloppe, qui disent justement le corps, l'absence et le retrait, adjoint la couleur. Des couleurs aux tonalités vives, en complicité avec le jeu des volumes. Concernant les académiciens musiciens, sur le Pont des Arts vous invite dans le courant du mois de juin à découvrir les œuvres étonnantes de deux compositeurs. Edith Canachisi, une femme compositrice à l'Académie, la parité est encore loin parmi les académiciens, mais ceux-ci ont accueilli depuis longtemps quelques femmes académiciennes. Edith Canachisi participera à une rencontre organisée au Centre de documentation de la musique contemporaine dans le 9e arrondissement, autour du thème intitulé « Musique et transversalité créatrice ». La rencontre sera modérée par Jean-Pierre Derrien à l'occasion de la création de « Over the Sea » commandée par l'IRCAM. Le 11 juin, la création mondiale de « Over the Sea » sera présentée au Théâtre des Bouffes du Nord à 20h par le trio Diotima et Pascal Conté à l'accordéon. Dans l'actualité des compositeurs de l'Académie, signalons également la diffusion de Titon pour synthèse et son d'insectes à l'occasion du festival Paranoia, expérience limite de musique électronique, mais c'est en Allemagne, à Karlsruhe, et c'est une œuvre de l'académicien François-Bernard Mache. Du côté de la photographie, Lucien Clergue expose des photographies auprès de dessins de Jean Cocteau, qu'il a très bien connu, à la galerie Baer dans le 8e arrondissement, du 6 juin au 30 septembre. Retrouvez par ailleurs sur Canal Académie les émissions de Lucien Clergue évoquant Jean Cocteau. Dans l'actualité des cinéastes membres de l'Académie, signalons la présence au dernier festival de Cannes en 2012 de Roman Polanski, qui est venu retrouver et refaire découvrir au public son chef-d'œuvre, Tess, son film réalisé en 1979, un film qui a été complètement restauré et qui a reçu une véritable ovation du public lors de sa projection. Dans l'actualité des prix et concours de l'Académie, rappelons simplement les dates de clôture à connaître pour le mois de juin. La date de dépôt de clôture pour le prix de dessin Pierre-David Veil est le mardi 12 et mercredi 13 juin. La date de clôture pour le prix de photographie de l'Académie des Beaux-Arts, le prix Marc Ladret de la Charrière, est le vendredi 29 juin. La date de clôture pour le prix du Cercle Monterland Académie des Beaux-Arts est le 15 juin 2012. Le jeudi 24 mai, le prix Liliane Bettencourt pour le chant choral 2012 a été attribué à l'ensemble Diabolus in Musica, dirigé par Antoine Gerber, pour le chant choral. Fondé il y a 20 ans à Tours, cet ensemble, Diabolus in Musica, est composé d'une dizaine de chanteurs et est devenu une référence de la musique médiévale en France et à l'étranger. Il se consacre à l'étude et l'interprétation de toutes les musiques médiévales, du plein chant jusqu'aux grandes polyphonies du XVe siècle, avec, à l'origine, une prédilection marquée pour les XIIe et XIIIe siècles français, privilégiant les répertoires et les œuvres inédites. L'ensemble s'ouvre depuis plusieurs années à d'autres disciplines et répertoires. Il développe ainsi, en 2012, un projet autour du thème des chants de résistance du XIIe au XXIe siècle. Le prix Liliane Bettencourt pour le chant choral 2012, la 23e édition, sera remis lors de la séance solennelle de l'Académie des Beaux-Arts le 21 novembre prochain, en 2012. Dans le domaine de la musique, l'Académie a également décerné le Grand Prix d'orgue Jean-Louis Florins et pour l'année 2012, le prix a été attribué à David Cassan. Ce Grand Prix annuel créé en 2002 est destiné à promouvoir les jeunes organistes. Il porte depuis 2005 le nom de Jean-Louis Florins, membre de l'Académie des Beaux-Arts, décédé en juillet 2004 et qui a été l'artisan du rapprochement de l'association ACSPO et l'Académie des Beaux-Arts. Pour les prix Del Duca, qui seront remis sous la coupole de l'Institut de France à l'occasion de la séance solennelle des Grands Prix de l'Institut le 6 juin prochain, l'Académie des Beaux-Arts a choisi, pour les Grands Prix Del Duca, Antonio Seghi comme artiste peintre, Jean Anguera comme sculpteur, Gheorghi Kurtag comme compositeur, et parmi les quatre prix d'encouragement concernant des jeunes musiciens, les lauréats sont Georges Beriachvili, pianiste, Thomas Lacote, organiste, Diego Tosi, violoniste, et Karen Wiersba, soprano. Dans l'actualité des arts du mois de mai, Canal Académie se penche sur trois expositions qui jouent avec la perception et les sens. Trois expositions où art et science sont réunis. La plasticienne Mylène Guermont, née en 1981, a une double formation d'artiste et d'ingénieur. Elle aime associer les technologies les plus récentes au pouvoir de ce qu'elle appelle l'imagination poétique. Les Archives nationales lui ont ouvert les portes pour une exposition personnelle d'œuvres très contemporaines dans un décor historique. L'hôtel de Soubise, actuellement le siège des Archives nationales, est l'un des plus prestigieux hôtels particuliers parisiens dans le 3e arrondissement, anciennement hôtel de Clisson puis hôtel de Guise situé au cœur du Marais. L'ensemble forme avec l'hôtel de Rouen le musée de l'histoire de France. L'exposition intitulée « Mémoire sensible » présente des œuvres créées pour l'essentiel à partir de bétons spéciaux. Loin de la rudesse brute de décoffrage du matériau utilitaire, Mylène Guermont fait chanter le béton. Elle utilise un matériau négligé, parfois détesté, plutôt accompagné d'images négatives, un peu comme... Dans les années 50, le sculpteur César s'était emparé du métal et des tôles dans les casses pour faire des sculptures. Le béton, dont on sait combien les variétés ont progressé grâce aux ingénieurs et aux architectes, acquiert avec elle le statut d'un matériau noble, beau et sensible. Un mot qu'on imagine d'emblée peu associé au béton. Ses œuvres originales sont en fait transformées en pièces sensibles et animées au contact des visiteurs. Mylène Guermont est une magicienne en synesthésie. Son champ exploratoire est sans limite, poétique et musical, en un mot magnétique. L'exposition s'inscrit dans le cadre des journées nomades organisées par la mairie du 3e arrondissement et se prolonge du 31 mai au 2 juillet 2012. Venez voir, donc écouter et jouer entre le visible et l'invisible avec des œuvres originales installées dans les différentes salles du musée des Archives nationales autour du thème de la mémoire, dans un des lieux de mémoire de la capitale de la France. Avec ses mémoires sensibles, Mylène Guermont dépasse le seul travail du matériau, donc pour créer de l'émotion. Si science sans conscience n'est que ruine de l'âme, selon la célèbre formule de Descartes, art sans science et science sans art sont des mondes inintelligibles pour Mylène Guermont, toujours tournée vers un monde où l'être et l'univers ne font qu'un, ou ne sont qu'un bref instant. Avec elle, ses œuvres et nous, s'ouvrent les portes, peut-être, de l'invisible. Retrouvons Mylène Guermont pour une exposition personnelle donc au Musée des Archives Nationales. Bonjour Mylène Guermont.
Bonjour.
La première fois que j'ai vu certaines de vos œuvres, Mylène Guermont, c'était à la Fondation Cartier en 2011, où vous présentiez un projet de fontaine, de folie.
De folie.
Ces constructions de jardin, un petit peu fantaisistes, qu'on trouve dans les grands parcs. Et c'était avec Claude Parent, l'architecte de la fonction oblique, membre de l'Académie des Beaux-Arts, qui avait été séduit par vos sculptures sonores de béton. Et il s'agissait d'un travail que vous avez mené en commun avec lui, à propos de la création de cette folie. Ça s'appelait la perle du Laos. C'était une folie imaginée pour un jardin botanique, donc dans le cadre d'un concours d'architectes assez renommé. Comment s'est créé ce lien entre vous et Claude Parent, Mylène Guermont ?
Je pense tout d'abord qu'il y a un lien fort qui est le béton, matériau préféré, matériau chéri de Claude Parent et de moi-même d'ailleurs, sous diverses formes. Il se trouve qu'avec la perle du Laos, on a voulu créer un projet qui ne soit ni de l'architecture oblique, ni mes murs polysensoriels interactifs, mais les deux à la fois. C'était une belle façon, une belle opportunité que m'a offerte Claude Parent de pouvoir travailler ensemble. Donc il s'agit de sphères dans lesquelles on peut rentrer, de sphères facettées, 5 modules en matériaux différents, facettées et chacune à pivoter de 2π/5, afin de permettre aux visiteurs à l'intérieur de pouvoir approcher de tout leur corps l'ensemble du volume. Donc on a des plans obliques, mais plusieurs, et certains sont interactifs, donc en béton polysensoriel.
Alors, pour nos internautes curieux, je les invite à aller voir votre site d'artiste, sur lequel il y a une petite présentation de la perle du Laos, on en aura déjà une idée. Le projet verra-t-il le jour alors ?
En fait, ce projet, au-delà du côté utopique, il va se concrétiser sous forme de coffret. Tout d'abord, de croquis qui vont être rassemblés sous forme de livres d'artistes, édités en 30 exemplaires, qui permettra à chaque propriétaire d'un coffret de pouvoir réaliser une fois sa folie. Donc potentiellement, on pourra voir 30 folies sur Terre.
Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est votre exposition personnelle aux Archives nationales, où vous exposez 7 œuvres qui vont de à la fois de la gravure colorée sur des feuilles de béton, si j'ai
tout à fait
saisi, à des murs polysensoriels, à des sculptures de béton, où de toute façon, il y a une interactivité entre les visiteurs et l'œuvre, et tout ça autour du thème de la mémoire. Alors, quel est le concept ou l'argumentaire, ou disons, pour faire tout simple, votre fil conducteur dans cette exposition, dans cet accrochage ?
En fait, le point de départ de mon travail, ça a été une synesthésie. J'ai touché un jour un mur en béton, à Genève, un mur banal, et j'ai eu l'impression physique d'être au bord de la mer. Et c'était tellement fort qu'après, j'ai voulu partager avec le plus grand monde cette réminiscence, cette synesthésie. D'où l'envie de faire d'autres murs, des murs en béton qui, quand les effleurent, font le bruit de la mer. Donc ça a été l'une de mes premières œuvres. Donc, ensuite, mon travail s'est décliné. Je me suis dit que ce qui pouvait être intéressant, au-delà de ma mémoire personnelle, c'est que le matériau lui-même devienne mémoire. D'où la création de murs nués, que vous pourrez voir aux archives, qui est un mur qui fait le bruit des nuages quand on l'effleure. Et le béton a enregistré le son des nuages avant l'exposition. Et si vous l'effleurez, selon votre champ magnétique, vous aurez tel ou tel son. Donc ça, c'est le point de départ par rapport à mon travail, qui est donc une mémoire intime, une expérience personnelle. Je trouvais que ça pouvait avoir du sens que de se confronter à la mémoire collective représentée par les Archives nationales.
Mais l'idée est venue de vous ou c'est les archives qui vous ont invité ?
C'est moi qui leur ai proposé puisque je cherchais un lieu où il puisse y avoir dialogue entre un passé et un contemporain. Puisque dans mon travail, on est toujours en train de voyager dans l'espace-temps. Donc ça pouvait être pertinent aussi d'être dans un lieu chargé comme les archives par rapport à leur fonction, mais aussi comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, à leur histoire, leur longue histoire à travers les siècles, et de pouvoir mettre tout cela en résonance. La scénographie de l'exposition est organisée selon un fil conducteur, là aussi. Cela ne m'intéressait pas d'être exposée dans la partie White Club. En revanche, la chambre de la princesse, le cabinet du prince, la grande salle, l'assemblée, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir disséminer comme ça plusieurs œuvres dans le musée. Mais en même temps, les disséminer, qu'elles soient discrètes, ne pas s'imposer. Pas comme ce qu'ont pu faire dans d'autres grands musées fortement chargés d'histoire, de mettre des œuvres d'art contemporain très spectaculaires.
À Versailles.
Je pense à certaines choses, bien sûr. Là, pour mon exposition et tout mon travail, c'est sur l'intime. Même quand j'ai fait Nuit Blanche il y a 3 ans, c'est sur une expérience personnelle. Et donc, je pense que parfois, même, il faudra aller chercher les œuvres. Même si elles sont en béton, même si certaines sont un petit peu grandes. C'était vraiment cette volonté.
Est-ce que c'est lié, cette recherche de l'intimité ou cette façon discrète de capter en fait le regard du visiteur? Est-ce que c'est lié au thème de la mémoire qui est quelque chose qui nous échappe toujours un petit peu, même si on s'y ressource, si on y plonge pour retrouver ou des racines ou des souvenirs ou...
Oui, en effet, c'est propre à chacun.
Est-ce que c'est lié au thème ou pas?
C'est très lié au thème et puis c'est très lié à mon travail également, puisque ce sont ces synesthésies que je ne peux pas contrôler, qui au départ me faisaient très peur, parce que pendant quelques centièmes de seconde, je ne suis pas là, je suis ailleurs. Et puis maintenant que j'ai appris à apprivoiser, et qui sont une source d'évasion aussi inépuisable. Et pour en revenir à ma démarche, c'est-à-dire même si certaines personnes n'éprouvent pas de synesthésie, ma démarche artistique est très simple, c'est de dire que parfois dans la vie, il suffit juste de regarder différemment ou de toucher différemment, au risque de manquer quelqu'un ou quelque chose. Donc là encore, on est dans l'intime, dans l'approche humaine, et cela même avec du béton, le matériau le plus produit au monde après l'eau, souvent décrié encore, mais que tout le monde connaît.
Qui parle à tous.
Tout à fait.
Alors vous avez la particularité quand même de le faire chanter.
Tout à fait.
On s'y attend pas. Comment vous est venue cette envie d'utiliser tous les sens en fait?
C'est par cette synesthésie forte où j'ai vraiment l'impression physique donc d'être au bord de la mer, donc autant par le toucher que par la vue, que par l'ouïe ou l'odorat. J'ai voulu après le partager. Et puis maintenant, en fonction des œuvres, j'essaye de proposer quelque chose qui ait le plus de sens, un concept qui ait le plus de sens par rapport au lieu, aux gens, au passé ou au futur supposé du projet.
Comment vous explorez notre mémoire sensorielle dans un but esthétique? Et si tel est le cas d'ailleurs?
Je ne sais pas si la volonté est l'esthétique. Je ne m'y connais pas assez en histoire de l'art et en esthétique pour le dire, même si la sensation, c'est ce qui est expliqué dans le texte d'introduction de l'exposition, fait référence à l'esthétique, en tout cas à ses origines.
Quelle définition vous donneriez-vous de la mémoire?
Je pense qu'on ne peut pas donner, je ne peux pas donner de définition. Je pense que la mémoire est multiple et complexe. Et c'est pour ça notamment que vous verrez l'œuvre Mémoire de girafe qui a été réalisée pour l'exposition avec un élément des archives qui s'appelle une girafe, donc aussi appelée gazelle dans le monde du BTP, donc qui est cet escabeau qui donne accès aux ouvrages, qui donne accès à la connaissance, donc qui permet un voyage dans le temps. Cet élément donc très caractéristique des archives sur lesquels se sont cristallisés des CD. Des CD sur lesquels on peut voir apparaître tel ou tel moment fort de l'histoire, de manière très lisible ou au contraire presque impalpable sur ces CD, éléments contemporains, modernes, de stockage de données, néanmoins en train de disparaître au profit de mémoire flash, de cloud system et d'autres technologies. Donc ce support qui renferme des données, mais néanmoins, sans médiation, on n'y a pas accès. Donc j'aimais bien mettre en parallèle ce CD et, quelque part, la fonction des archives nationales.
Vous travaillez souvent sur les synapses, en fait, sur ce qui...
Les connexions.
Les connexions, c'est ça qui est la partie poétique, en fait, de votre travail, parce qu'on n'y pense pas forcément visuellement, quand on... Première chose qu'on voit, et puis après, on rentre dans l'œuvre.
Oui, ou même si vous ne l'effleurez pas, rien ne se passe. Mais c'est comme dans la vie, et tant pis, ou tant mieux, celui qui la découvre.
Mylène Guermont, qu'est-ce qui vous intéresse dans la réaction entre le matériau que vous utilisez dans vos œuvres, à savoir le béton, et puis le stimuli du corps des spectateurs, j'allais dire des téléspectateurs, des visiteurs?
C'est que chacune de ces approches sera unique par définition, puisque chaque spectateur est unique. Et c'est ce qui m'intéressait, c'est pour ça que j'ai suis partie sur cette étude du champ magnétique. Ça, c'est la première chose.
C'est-à-dire que quand on passe,
c'est votre champ magnétique qui est détecté déclencher. Par l'œuvre. Oui. Je voulais vraiment quelque chose d'unique et le champ magnétique le permet. Et c'est encore un champ d'exploration énorme. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. J'adore peindre à l'œuf, mais ce qui me plaît aussi avec ces bétons spéciaux, comme vous le dites, ces bétons ultra haute performance sont 10 fois plus solides que des bétons classiques qu'on trouve pas dans le commerce et qui permettent de faire des pièces très très fines, mais aussi avec une tactilité de grande qualité. Ce qui m'intéresse avec ces matériaux, c'est qu'ils sont tout jeunes, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer et donc à créer. Mais toujours la science et la technologie au profit de la démarche artistique et de ce qu'on veut en dire en fait. Cela ne m'intéresse pas de trouver, de faire une recherche scientifique juste pour la recherche technologique et pour l'avancée technologique. En
fait. Qu'est-ce qui vous plaît dans le béton ?
Il y a plusieurs choses qui me plaisent. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Voilà, au-delà de ces ultra hautes performances, au-delà du fait qu'il soit connu par tous, qu'il puisse parler à tous, qu'il puisse évoquer à tous quelque chose, qu'il soit accessible à tous, de cette force aussi. Et par rapport à l'approche physique, le fait que ce soit un matériau solide me permet de faire des œuvres que je peux donner à toucher. Et là, je me rapproche de plus en plus de l'architecture en faisant des œuvres comme l'année dernière qui fait 11 mètres de haut, 3 tonnes, mais juste 4 cm d'épaisseur. C'est que je peux faire des œuvres grandes, donc en surface, et les gens peuvent complètement s'y lover, la toucher. Et ça m'intéresse, c'est d'aller de pousser jusqu'aux limites de l'approche tactile de l'œuvre qui sort de sa vitrine et qu'on va venir effleurer. Et puis là, même s'y plaquer. J'ai des enfants qui embrassent certaines de mes œuvres. C'est très, très étonnant. Il y a un rapport très unique et pas forcément difficile à prévoir. Très imprévisible.
Aux Archives nationales, on peut voir une œuvre qui s'appelle Nostra Scena. Une œuvre, évidemment, qui fait référence à la scène de Léonard de Vinci. Présentez-nous cette œuvre.
Nostra Scena est issue d'une réflexion sur la matrice. La matrice de notre Europe. La constitution européenne qui fait référence à nos origines judéo-chrétiennes, d'où la religion. Et d'un autre côté, une autre matrice destructrice que je mets en avant dans cette œuvre, la puissance nucléaire. Et donc j'ai voulu mettre en dialogue ces deux énergies. Donc a été reproduit en studio photo la scène de Leonardo da Vinci, architecte, ingénieur, artiste. Les silhouettes ont été évincé.
On a l'impression d'un négatif.
Exactement. Enfin. Le décor a été quadrillé comme s'il était passé dans une matrice mathématique, une grille. Notamment sur cette peinture, c'est une table qui est représentée. Et puis, ensuite, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé à Hiroshima. Et j'ai tout de suite eu dans ma mémoire cette effroyable photographie d'un morceau de béton où on voit l'ombre d'une échelle et d'un homme en train de gravir cette échelle. L'homme est mort. L'explosion a donc eu lieu, mais néanmoins, il reste sa trace sur ce béton.
C'est le flash, en fait, de l'explosion de la bombe qui a projeté l'ombre de cette échelle et de cet homme.
Exactement, et je trouvais cette image forte. Et donc, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé pour moi-même essayer d'imprimer sur cette feuille de béton qui fait 1,80 m par 90 cm, imprimer cette scène. Donc voilà comment je les ai mis tous les deux en connexion et j'ai inventé ce procédé de gravure colorée pour cette œuvre qui me permet donc d'écrire dans l'épaisseur du béton. C'est une de mes premières œuvres, elle date de 2007.
Donc on voit que vous inventez aussi le procédé de vos œuvres, c'est-à-dire que déjà vous recherchez des matériaux particuliers, très élaborés, mais aussi des gravures sur béton, ça existait avant ?
J'ai cherché pour pouvoir faire cette œuvre, et je ne trouvais pas. Il y a bien des systèmes de pochoirs, ou sinon on met du béton de différentes couleurs, mais on n'arrivera jamais à cette délicatesse. Oui, et cette résolution.
Ça vous intéresse autant, cette recherche scientifique ?
Elle me permet d'arriver
au rendu que vous souhaitez.
Oui, exactement. C'est pas ce qui me fait le plus palpiter, bien sûr, puisque j'aime innover, quelque part. J'aime créer des choses neuves, et c'est une façon de mettre au profit ces connaissances scientifiques.
Un mot d'un mur, parce que là, vous présentez un mur qui s'appelle Mur Nué, qui est un mur qui devient une mémoire.
Oui,
alors là, c'est quand même un peu étonnant.
Mur Nué, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de le rendre mémoire. Donc Mur Nué, en fait, est une œuvre en béton polysensoriel, cratère. Donc j'ai développé une électronique pour que ce mur enregistre le son des nuages. Donc je suis allée haut de toiture à New York. Je voulais un univers très citadin et j'ai mis cette plaque de béton pendant des jours, pendant des semaines, face aux nuages. Et le béton a enregistré différents sons. Alors, bien sûr, des souffles, des crépitements, mais aussi des sons inaudibles par l'oreille humaine directement, comme des ondes radio. Et après, j'ai remis ces sons dans ce mur que vous pourrez toucher en haut de l'escalier d'honneur des Archives nationales. Et si vous l'effleurez, selon votre champ magnétique, se déclenchera tel ou tel son qui provoque à son tour des ondulations de lumière dans le béton en rythme avec le son. Donc c'est à chaque fois différent.
Merci Mylène Garmont. Je rappelle que l'exposition Mémoire sensible s'inscrit dans le cadre des Journées nomades, organisée par la mairie du 3e arrondissement et qu'elle est ouverte durant tout le mois de juin jusqu'au 2 juillet. Allez voir, écouter et jouer justement avec les œuvres de Mylène Garmont.
Merci.
Dans l'actualité des arts, toujours sur ce thème de l'art et de la science, signalons deux expositions, celle de Daniel Buren pour l'édition de Monumenta 2012 au Grand Palais, et signalons également l'exposition Carbone 12, art et changement climatique présentée à la Fondation EDF à Paris. Sur le Pont des Arts vous donne rendez-vous à la fin du mois de juin pour l'actualité des festivals cet été.